Alors, un livre est né et le livre a comme titre « Le trauma complexe chez l'enfant et l'adolescent ». Le livre est paru aux éditions Midi 30 dans la collection 10 questions sur point de suspension. Et c'est un livre signé par Marie-Ève Grisé-Bolduc, qui est psychoéducatrice, si je ne m'abuse. Bonjour, Marie-Ève Grisé-Bolduc.
Bonjour. En fait, je ne porte pas le titre de psychoéducatrice, donc je veux juste le préciser, mais je suis détentrice d'une maîtrise en psychoéducation. Mais merci de me recevoir.
Ça me fait très, très plaisir. Alors, on n'entend pas souvent, en tout cas, moi, je suis pas du tout dans le domaine, là, mais il me semble que c'est plus le trouble de stress post-traumatique qu'on entend plutôt que trauma complexe. Alors, dites-nous, le trauma complexe, c'est quoi exactement?
Donc, le trauma complexe, en fait, ça réfère, on dit souvent que ça réfère à une double réalité. Donc, d'abord, ça réfère à une exposition qui va être chronique, répétée, à des traumas interpersonnels qui vont impliquer habituellement une figure de soin. Donc, quand on parle de trauma interpersonnel, on fait référence à des traumas qui vont vivre au sein même des relations significatives que les jeunes vont entretenir avec leur entourage. Donc, on peut penser, par exemple, à différentes situations où leur intégrité physique ou leur intégrité psychologique peut être menacée, comme différentes formes de maltraitance, telles que l'abus physique, sexuel, du dénigrement, de l'humiliation, de l'abandon, de la négligence, etc., etc. Ensuite, ben, le trauma complexe, ça réfère à des conséquences qui vont être multiples, variées, donc complexes, qui peuvent résulter de cette exposition-là au traumatisme interpersonnel. Les jeunes qui vivent des traumas complexes, c'est des jeunes qui peuvent vivre plusieurs difficultés dans différentes sphères de leur développement, que ce soit des difficultés sur le plan comportemental, donc des jeunes qui peuvent avoir des comportements très réactifs ou au contraire très passifs, peuvent présenter des difficultés dans les relations interpersonnelles, donc ça peut être ils peuvent avoir des relations interpersonnelles qui vont être conflictuelles, chaotique ou au contraire des relations interpersonnelles très déconnectées ou détachées. Il peut aussi avoir des difficultés sur le plan de l'identité, donc des jeunes qui peuvent intérioriser une vision très négative d'eux-mêmes.
Et Marie-Ève Grisé-Bolduc, le trauma complexe, le mot le dit, là, le qualificatif complexe, est-ce que c'est compliqué à diagnostiquer? Est-ce que ça se diagnostique?
Ce n'est pas un diagnostic en tant que tel, c'est plus un concept clinique. Ça ne fait pas partie du DSM, là, qui est le manuel de référence là, des troubles psychiatriques, auquel on va utiliser là, beaucoup ici là, en Amérique du Nord. Toutefois, dans la nouvelle classification internationale des maladies, qui est plus d'origine européenne, là, il y a un nouveau trouble qui a été ajouté, qui est le trouble de stress post-traumatique complexe.
Mais moi, et c'est la même chose ou pas tout à fait?
Le trouble de stress post-traumatique complexe est vraiment un diagnostic qui fait partie de cette classification-là qui est moins utilisée ici en Amérique du Nord. Mais moi, quand je parle de trauma complexe, c'est pas nécessairement un diagnostic. Là. C'est vraiment un concept qu'on va utiliser. Mais ça veut pas dire que par exemple, les pédopsychiatres ou les psychologues ne l'utiliseront pas. C'est juste pas encore un diagnostic qui est inclus là, dans le DSM-5 qu'on utilise ici.
Mais comment on peut évaluer les traumas complexes?
Donc, plus que ça réfère à des conséquences qui vont être variées, multiples, souvent quand on veut évaluer ça, ben il va falloir justement évaluer différentes sphères de fonctionnement des jeunes. Et si on voit là que le jeune, par exemple, il a vécu différents traumatismes en enfance et qu'en plus, ben il vit des difficultés sur le plan comportemental, sur le plan de la régulation des émotions, sur le plan de l'identité, sur le plan des relations interpersonnelles, ben on pourrait croire qu'il y a des difficultés complexes qui s'ensuivent à ces traumatismes-là. Ouais.
Et les conséquences associées à un trauma complexe sont énormes. Là, vous parlez d'identité, d'émotion, de comportement. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les enfants, les adolescents qui ont un trauma complexe?
Ben moi, je pense que oui. Et je crois que cet espoir-là, il réside dans les relations. que les jeunes vont entretenir avec leur entourage. Donc, la résilience, elle peut être prédite par la présence d'adultes significatifs qui vont être bienveillants, sécurisants, qui vont établir une relation, qui vont venir connecter avec ces jeunes-là pour les aider là, à mieux fonctionner dans leur quotidien. Donc, on pense à des enseignants, on pense à des éducateurs, des intervenants, à des familles d'accueil qui peuvent devenir des piliers très significatifs pour ces enfants-là et qui peuvent les aider au quotidien, disons, à se reconstruire tranquillement. Ça ne veut pas dire que la guérison des traumatismes, elle est facile et qu'elle va être linéaire, mais je crois vraiment qu'il y a de l'espoir, surtout en enfance et en adolescence. Bien, on dit que le cerveau, il est plastique, hein? Donc, le cerveau, il a une grande capacité.
Il est malléable.
Exactement, une grande capacité à se modifier. Donc, c'est pour ça, bien sûr, que le cerveau va être sensible aux expériences adverses, aux traumatismes vécus, mais en même temps, il va aussi être sensible aux expériences positives.
D'accord.
Donc, il y a vraiment de l'espoir pour ces jeunes-là, puis c'est un peu le message que je veux lancer dans mon livre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme adulte pour aider ces jeunes-là à guérir, en quelque sorte?
Mm-hmm. Alors, vous dites que le cerveau est réparable d'une certaine façon. Le cerveau des traumas complexes.
Oui, absolument. Ben, en fait, c'est que les jeunes qui vivent des traumas peuvent avoir des conséquences sur leur développement de leur cerveau. Donc, mais on pense aussi que, justement, à travers des relations réparatrices, le cerveau a cette capacité-là à se modifier et à se rétablir, si on peut dire.
Mm-hmm. Alors, ce livre-là, est-ce que vous l'avez écrit, toute seule, parce que vous êtes la seule signataire, mais je sais que dans les remerciements, il y a des personnes importantes là, qui vous ont inspiré et peut-être aidé, nourri.
Ben oui, absolument. En fait, moi, j'ai travaillé plusieurs années en protection de la jeunesse. Mm-hmm. Et en 2017, là, j'ai fait un retour aux études pour venir faire mes maîtrises en psychoéducation. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont beaucoup inspirée dans mon parcours. Je pense à mon directeur de mémoire, Tristan Milo, qui a relu mon premier manuscrit. Je le remercie.
Qui a déjà écrit un livre sur le trauma complexe.
Absolument, absolument. Donc, c'est sûr qu'il m'a beaucoup inspirée.
Ouais.
Moi, mon livre, je dirais que je le voulais vraiment très...
pratico-pratique.
Exactement. Donc, très, très, très vulgarisé que un peu monsieur, madame, tout le monde va pouvoir lire et que ça sera pas... justement, le contenu va être vulgarisé et accessible.
Oui.
Donc...
Mission accomplie.
Merci, c'est vraiment gentil.
Non, c'est ça, c'est bien écrit, c'est concis, il y a des tableaux explicatifs et ça fonctionne par question. C'est ça.
Oui,
hein?
Exactement. Donc, la collection 10 questions sûres, comme vous le disiez tantôt. Donc, il y a 10 chapitres qui sont 10 questions qu'on pourrait se poser là, sur le trauma complexe.
Bien oui, j'ai commencé par la première question. Le trauma complexe, c'est quoi? Alors, il faut commencer par le commencement. Et je me demandais, est-ce que vous connaissez le pourcentage des enfants et des adolescents qui sont touchés par ce problème?
Oh, c'est difficile à dire. Les études sont encore assez récentes dans ce domaine-là. Donc, c'est difficile à dire, mais une statistique qui peut être intéressante de connaître, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens dans la population générale qui ont vécu des traumatismes en enfance.
Ouais.
Donc, selon les différentes études, là, on peut penser que un tiers à deux tiers de la population générale ont vécu au moins un événement traumatique ou de la maltraitance durant l'enfance. Donc, ça parle de la pertinence de s'intéresser à cette problématique-là si autant de gens en sont touchés. Mais là, ça ne veut pas dire que tout le monde qui a vécu ce genre d'expérience-là dans l'enfance vont développer un trauma complexe, là. Mais ça vient juste parler du fait que c'est très pertinent de s'y adresser, de réfléchir nos services collectivement en fonction du fait que plusieurs personnes peuvent avoir vécu des traumatismes durant l'enfance.
Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux dans votre pratique professionnelle, Marie-Ève Grisé-Bolduc?
Ben, en fait, moi, j'ai parti d'une page Facebook il y a environ 2 ou 3 ans, qui s'appelle Marie-Ève Grisé MSC. Donc, le but, c'était vraiment d'offrir, de partager, puis d'offrir du contenu sur le trauma. Donc, pour éduquer la population sur c'est quoi les traumas, ça peut être quoi les conséquences, c'est quoi les approches sensible au trauma et tout ça. Donc, moi, c'était vraiment là, une mission là, que j'avais le goût là, de remplir. Puis que c'est ça, c'était de partager des choses gratuites, accessibles là, au plus de gens possible. Et bien, j'ai une petite communauté là, qui me suit, puis je suis bien heureuse parce que ça permet de faire voyager l'information sur ces sujets-là qui sont très importants, selon moi.
Oui, vous êtes sensible à l'importance du bonheur chez l'enfant, bien, chez tout le monde, mais particulièrement chez l'enfant et l'adolescent. Ce sont des périodes où on devrait être heureux, surtout quand on est enfant. On est complètement dépendant des personnes qui nous entourent, des personnes adultes, et il y a certaines personnes adultes qui sont absolument pas responsables. Alors, j'imagine que ça vient aussi vous chercher, là.
C'est sûr, mais en même temps, tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent... oui, il y a des adultes, des parents qui vont malheureusement maltraiter leur enfant.
Bien, peut-être qu'ils ont aussi un trauma complexe.
Absolument, ils peuvent avoir vécu eux-mêmes des traumatismes durant l'enfance. Donc, ça peut impacter la façon dont ils vont devenir parents à leur tour. Et ça peut être des parents qui vont vivre différents stresseurs, qui vont affecter la réponse qu'ils vont offrir à leur enfant. Donc, on pense parfois à des conditions socio-démographiques très précaires, comme de la précarité financière, perte d'emploi, séparation et tout ça, ou des parents qui vont avoir des difficultés personnelles comme des problèmes de santé mentale, la toxicomanie, ça va avoir un impact sur la façon dont ils vont prendre soin de leur enfant. Donc, voilà.
Et l'exemple que vous donnez en introduction, le Liam qui a 7 ans, sa grande sœur Mila qui a 12 ans, les deux habitent chez les enfants, les enfants habitent chez leurs parents, là, c'est assez normal, c'est dans le cours normal des choses, mais ils entendent crier toute la journée. Je pense que c'est le père qui a des problèmes d'alcoolisme. Est-ce que ce sont des enfants que vous avez déjà croisé ou ce sont des enfants imaginaires, mais ou en fait des enfants inspirés d'autres enfants?
C'est des enfants inspirés d'autres enfants. Donc, bien sûr, il n'y a pas de vrai Liam et Mila. Là, c'est des exemples fictifs, mais j'ai vraiment tiré ça un peu de ma pratique en centre de jeunesse. Là, quand j'étais intervenante en protection de la jeunesse, je ne réfère pas ici là, à des enfants précis. C'est vraiment, je me suis inspirée d'une panoplie là, de cas auxquels j'ai été confrontée. Mais je trouvais que ça l'illustrait bien là, comme dans quel genre de milieu ces enfants-là peuvent grandir. Et j'avais le souci là, dans mon livre d'essayer de donner des exemples concrets pour qu'on puisse un peu ressentir là, dans quoi ces enfants-là, dans quelle ambiance, quel contexte ils grandissent.
Et Marie-Ève, vous parliez tantôt que ce livre s'adressait ou pouvait aider les parents, les enseignants, les éducateurs, les intervenants, les familles d'accueil, les professionnels qui prennent soin de ces jeunes, mais comment les adultes, c'est une des questions que vous posez dans votre livre, peuvent répondre aux besoins de ces jeunes?
Ah oui, c'est une bonne question. J'en ai fait un chapitre, oui. Justement. Donc, comment les adultes peuvent répondre aux besoins de ces jeunes-là? Bien, d'abord, ce qu'il faut se rappeler, là, c'est que les jeunes qui ont vécu la maltraitance, des traumas, ils ont vécu dans des environnements souvent très chaotiques, imprévisibles, qui ont favorisé un sentiment de danger très omniprésent dans leur vie. Donc, l'idée générale, là, c'est de répondre tout d'abord à leurs besoins de sécurité et à leurs besoins de prévisibilité à ces enfants-là.
Comment on fait ça?
Donc, la sécurité, en fait, ben ça passe d'abord par bannir tout type d'intervention qui va être basée sur la rigidité, le contrôle, voire même la peur, pour laisser place à la connexion, l'accompagnement, l'éducation. Donc, on veut offrir un environnement qui va être bienveillant, qui va être un havre de paix ou un sanctuaire pour ces jeunes-là. Donc, un endroit où ils vont pouvoir se sentir en sécurité et où ils vont pouvoir en enfin se déposer. Puis, on veut bien sûr répondre à leurs besoins de prévisibilité parce que la nouveauté, le changement, ça peut facilement faire réagir ces jeunes-là. Donc, on veut leur offrir des routines quotidiennes personnalisées.
Ils ont besoin d'encadrement jusqu'à un certain point.
Absolument, mais tout en étant dans la... Il faut qu'il y ait un équilibre entre la structure et la flexibilité.
Oui.
Et quand je parle de routine, je ne parle pas seulement de routine là, où on va parler des tâches qui doivent être réalisées dans une journée. C'est plutôt d'incorporer aussi des routines où le jeune va pouvoir avoir des moments pour se réguler. Donc, des moments où il va pouvoir relâcher son trop-plein d'énergie ou se reconnecter avec son environnement. Des routines où il va pouvoir connecter avec l'adulte. Des routines où il va pouvoir jouer avec l'adulte, les ses pairs, pour créer de la connexion, des relations. Donc, on veut introduire des moments comme ça dans le quotidien des jeunes pour répondre à leurs besoins de sécurité et de prévisibilité.
Alors, être à l'écoute du jeune, son besoin fondamental, ben vous avez parlé de flexibilité, mais un climat de confiance, de l'amour, c'est quoi le besoin fondamental d'un enfant?
Je ne sais pas s'il y en a un qui est fondamental, il y en a plusieurs, hein? Mais oui, vous avez dit l'amour, je pense qu'il faut le retenir. Ils ont besoin d'un amour inconditionnel, donc un amour sans condition. Oui. Donc, peu importe comment ils se comportent, peu importe comment ils réagissent, il faut leur montrer qu'on les aime quand même, qu'on est là pour eux, puis qu'on ne s'en va pas nulle part, qu'on reste près d'eux.
Et Marie-Ève Grisé-Bolduc, c'est dans votre livre, vous écrivez « La pointe de l'iceberg » qui correspond au comportement que vous observez chez des jeunes. En plongeant dans l'eau, on peut observer ce qui se cache sous ces comportements. Alors, souvent, un comportement qui est fermé ou qui est complètement agressif cache des choses encore plus sérieuses, graves, profondes, et il faut s'y attarder. S'il n'y a pas d'écoute, ce jeune-là peut être laissé à lui-même, puis ça devient justement un parent qui peut justement vivre avec un trauma complexe.
Absolument. Donc, il ne faut pas juste s'attarder à la manifestation comportementale ou s'attarder seulement aux symptômes qui est visible. Donc, dans mon livre, je le dis, il faut plonger sous l'eau pour aller voir ce qui se cache sous la pointe de l'iceberg. Donc, quand on découvre qu'est-ce qui se cache sous la pointe de l'iceberg, ça nous permet d'avoir des interventions qui vont être plus appropriées. Donc, si, par exemple, un jeune a un comportement X, mais que finalement, on se rend compte que c'est parce qu'il y a de la difficulté à réguler ses émotions ou c'est parce qu'il essaie de combler un besoin qu'il n'a pas été capable de combler autrement. Donc là, ben, c'est sûr que notre intervention va s'orienter en fonction de qu'est-ce qu'on va comprendre de son comportement-là. Donc, les comportements, il faut les recontextualiser en pensant à qu'est-ce que ces enfants ont vécu. Donc, ça va vraiment venir nous aider à mieux intervenir.
Oui. Alors, parce que marcher constamment sur des œufs, c'est épuisant et oui, ça peut devenir traumatisant. Bien contente de vous avoir parlé, Marie-Ève Grisé-Bolduc. Je rappelle le titre de votre livre, « Le trauma complexe chez l'enfant et l'adolescent ». En sous-titre, on peut lire « Mieux comprendre pour mieux intervenir ». Et cet ouvrage est paru aux éditions Midi-30 dans la collection « 10 questions sur ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ben, merci de m'avoir reçu. C'est un grand plaisir.
À la prochaine.
Merci.